Il est 22h et le journal vous est présenté par Kevin Baudreau.
Bonsoir à tous. La volte-face de Donald Trump sur la politique migratoire aux États-Unis. Le président américain vient de signer un décret qui met fin à la séparation des familles entrées illégalement aux États-Unis. Précision sur place de Grégory Phillips. En Hongrie, en revanche, la politique migratoire se durcit encore un peu plus. Cette fois, ce sont les ONG qui sont visées. Si une personne porte assistance à des migrants, elle risque une peine d'un an de prison. C'est bientôt la fin de l'assistanat pour l'économie grecque. Cet été, elle retrouvera son autonomie. Et demain, les ministres des Finances de la zone euro doivent dessiner les contours de cette sortie, les explications de Marie Viennot. Et puis, on parlera musique avec l'invité du journal de 22h de France Culture. Demain, vous le savez, c'est la fête de la musique. Ce qu'on sait moins, c'est le parcours du combattant pour ses musiciens pour obtenir des diplômes reconnus, notamment au niveau européen. Donald Trump a finalement cédé, inflexible hier encore face à l'émotion suscitée par ces images d'enfants en pleurs, privés de leurs parents, entrés clandestinement aux États-Unis. Eh bien, le président américain vient de signer un décret qui met fin à la séparation des familles. Bonsoir, Grégory Phillips.
Bonsoir.
Vous êtes au Texas, à la frontière avec le Mexique. Spectaculaire retournement pour le président américain. Il a donc entendu l'émotion de son pays.
Oui, il le fait entouré de sa ministre de la Sécurité intérieure et du vice-président Mike Pence dans une courte cérémonie solennelle. Donald Trump signe donc ce décret qui met fin à la séparation des familles de migrants. Spectaculaire volte-face. Hier encore, le président américain expliquait que ce n'était pas possible de faire autrement que lorsque les parents étaient interpellés. Il fallait bien éloigner les enfants. Mais ce soir, Trump dit qu'il n'aime pas séparer les familles. Malgré tout, affirme le président des États-Unis, notre politique de tolérance zéro sur l'immigration clandestine continue et nous devons garder notre frontière puissante. Puissante et forte. Mais sur la question des enfants, l'administration recule donc. Cette doctrine avait été annoncée par le ministre de la Justice, Jeff Sessions, au mois de mai, comme une mise en garde aux candidats à l'immigration clandestine. Mais les images, les pleurs de ces enfants derrière des grilles ont énormément choqué ici, jusqu'à la première dame, Melania Trump, qui était sortie de sa réserve pour le dire. 12 sénateurs républicains avaient aussi réclamé dans une lettre ouverte un arrêt immédiat de cette pratique. Trump a entendu apparemment, à moins de 5 mois des élections demi-mandat, le sujet devenait sans doute trop explosif, y compris au sein de sa majorité.
Merci Grégory Phillips, en direct du Texas aux États-Unis. Viktor Orban a donc choisi ce mercredi 20 juin, journée internationale des réfugiés, pour lui durcir sa politique migratoire. Le Premier ministre hongrois a fait voter une loi qui criminalise les ONG si elles portent assistance aux demandeurs d'asile. Un vote au mépris des injonctions du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne. D'autant que la Hongrie ne croule pas sous les réfugiés. À Budapest, Florence Labruyère.
Il y a moins de 400 demandeurs d'asile aujourd'hui en Hongrie, mais Viktor Orban continue à brandir la menace d'une invasion migratoire. C'est ainsi qu'il justifie les lois votées par son parti. La première permet aux autorités hongroises de rejeter les demandes d'asile sans les examiner. La deuxième cible les ONG qui aident les réfugiés, comme le comité Helsinki de Hongrie. Les responsables de cette ONG risquent la prison, comme l'explique Gábor Gyulai.
Nous sommes ciblés directement parce que nos avocats offrent de l'assistance juridique aux demandeurs d'asile et ça, c'est une activité qui sera criminalisée par cette nouvelle loi. Aussi, publier des fiches d'information qui résument les lois hongroises en matière d'asile peut devenir un acte criminel. Et ce n'est pas une blague, ça se passe dans un pays membre de l'Union européenne.
Pour Gábor Gyulai, ces lois sont clairement en contradiction avec les traités internationaux et le droit européen.
Je crois qu'on est arrivé à un point où ça devient la politique numéro un du gouvernement de ne pas respecter les règles internationales et de tester la communauté internationale toujours plus fort. Où sont les limites, où sont les lignes rouges?
Le vote a suscité peu de réactions. Il faut dire que les Hongrois ont la tête ailleurs. Les vacances scolaires viennent de commencer et la Coupe du monde de football mobilise tous les esprits.
Florence Labruyère, l'été aurait pu être très agité pour Theresa May. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes a finalement accepté la proposition de son gouvernement. Dans la procédure du Brexit. Les députés britanniques ont dit oui à sa proposition d'un vote consultatif sur l'accord final qui sera signé avec Bruxelles. Antoine Gignot, les concessions offertes par le gouvernement de Theresa May ont donc eu l'effet escompté.
Et pourtant, ce ne sont que de petites concessions. Les députés pourront voter à l'automne pour dire si l'accord négocié entre Londres et Bruxelles leur convient, et ils pourront, mais seulement si le président du Parlement le décide, présenter des amendements. Inacceptables pour la gauche, qui voit dans ce texte une manœuvre pour donner l'impression aux députés d'avoir du pouvoir, mais c'est suffisant pour faire rentrer dans le rang les conservateurs rebelles, Nicky Morgan, Anna Soubry et évidemment Dominic Grieve, l'ancien procureur général, se range derrière la première ministre Theresa May. Je pense pense, dit-il, qu'il faut accepter les difficultés du gouvernement et le soutenir. Il appelle surtout à mettre fin à l'hystérie, à la folie qui s'est emparée du Parlement, aux menaces de mort et aux intimidations de ces dernières semaines. Après 2 ans de déchirement, c'est peut-être la première fois que les conservateurs pro et anti-Brexit montrent une volonté de travailler ensemble. Il y a des batailles beaucoup plus importantes qui arrivent autour de plusieurs projets de loi sur le commerce ou sur les douanes. Et en reprenant la main aujourd'hui, le gouvernement évite sans doute plusieurs semaines d'affrontements à répétition.
En Grèce, une page se tourne. Après 8 ans sous programme d'assistance financière, le pays doit retrouver cet été son autonomie financière. Et demain, ses créanciers, pays de la zone euro et FMI, doivent se mettre d'accord sur les conditions de cette sortie. Pas de crise en vue, mais ce ne sera sans doute pas de tout repos, Marie Viennot.
Il y a pour résumer 3 gros sujets sur la table. Tout d'abord, classique, les créanciers de la Grèce vont évaluer les mesures dernièrement appliquées par Athènes et décider quel sera le montant de la dernière tranche de prêt à la Grèce. Il y a 3 ans, le programme d'assistance avait prévu 86 milliards d'euros de prêts, mais 46 seulement ont été à ce jour déboursés. Il y a donc de la marge et même encore un peu plus puisque la dernière tranche de prêt qui serait versée pourrait aller de 11 à 20 milliards d'euros. Quoi faire du reste de l'argent? Il va falloir discuter de cette question. Deuxième sujet crucial, les mesures d'allègement de la dette grecque. Il y a 1 an, l'Eurogroupe en a acté le principe. Il doit aujourd'hui en définir les modalités concrètes. Il n'est pas question de tirer un trait sur une partie de la dette grecque, mais notamment de prolonger des prêts existants. De combien ? 3 ans, 5 ans, 15 ans ? C'est l'une des inconnues de la discussion. Enfin, la Grèce sort du programme d'assistance. Elle est maintenant censée se financer sur les marchés financiers. Mais pour s'assurer qu'ils seront bien un jour remboursés, les créanciers zone euro FMI de la Grèce veulent garder un œil, voire une main, sur la future politique grecque. On parle d'un programme de surveillance renforcé. Il va donc falloir aussi définir en quoi cela consiste.
Marie Viennot, merci. En France, Jean-Jacques Urvoas, mis en examen par la Cour de justice de la République, l'ex-garde des Sceaux socialiste est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Solaire des éléments sur une enquête le concernant. C'est peut-être le vrai départ pour l'éolien en mer en France. En déplacement à Plévenon, dans les Côtes d'Armor, Emmanuel Macron a confirmé le lancement des 6 premiers parcs d'éoliennes offshore. Ces dernières semaines, le gouvernement menaçait d'annuler les appels d'offres si les opérateurs ne négociaient pas une baisse des coûts. C'est donc chose faite, Sandy Dauphin.
Un accord a été trouvé après plusieurs mois de négociations tendues. Le prix du rachat de l'électricité offshore est revu à la baisse. Il passe de 200 euros en moyenne par mégawattheure à 150 euros. C'est toujours largement au-dessus des prix moyens du marché, mais le gouvernement estime que cette négociation va permettre de réduire de 40% la subvention publique, soit 15 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement estimait que les prix négociés lors des appels d'offres en 2012 et 2014 ne reflétaient plus la réalité du secteur. En quelques années, l'essor de l'éolien en mer, en Europe du Nord notamment, a fait chuter les prix. De leur côté, les industriels expliquent qu'ils ont rencontré beaucoup d'obstacles en France, d'où le retard, une réglementation qui a tâtonné et surtout des recours systématiques des associations anti-éoliennes. Aujourd'hui, la filière est soulagée. Pauline Lebertre, déléguée générale de France Énergie Éolienne.
La filière est très satisfaite. C'était en effet l'issue positive qu'on espérait de ces négociations, à savoir la concrétisation des 6 projets, des projets qui vont créer 10 000 emplois en France. Donc il y a vraiment une grande satisfaction pour la filière.
Loin derrière le Royaume-Uni, le Danemark et l'Allemagne, la France devrait donc inaugurer ses premières éoliennes en mer en 2021, au large de Saint-Nazaire, puis au large de Fécamp, Courseul, Saint-Brieuc, Dieppe et Noirmoutier.
Nicolas Hulot était présent aux côtés d'Emmanuel Macron. Le ministre de la Transition écologique a annoncé qu'il souhaitait inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. Des milliers de musiciens se préparent à faire battre le rythme de nos villes et de nos villages. Demain 21 juin, le début de l'été et évidemment la fête de la musique. On en profite pour s'intéresser dans le journal sur France Culture à la formation musicale française. Une pétition qui a recueilli plus de 2600 signatures demande une revalorisation du diplôme musical, une meilleure reconnaissance à l'international. En effet, aujourd'hui, seuls les 2 conservatoires de Lyon et Paris délivrent des masters de musique. Pour tout le reste, ce sont des équivalences de niveau bac. Bonsoir Jean-Marie Siesca.
Bonsoir monsieur.
Directeur de conservatoire, ancien inspecteur au ministère de la Culture. Alors est-ce qu'il y a un problème avec les musiciens et l'enseignement musical en France ?
Il y a plus d'avantages et de qualités que de difficultés. En France, pendant très longtemps, il n'y a eu que deux conservatoires nationaux supérieurs, Paris et Lyon, alors qu'en Suisse, en Allemagne, en Italie, il y avait de nombreux établissements d'enseignement supérieur. En France, cette chose est maintenant améliorée depuis une dizaine d'années, puisque depuis 2006-2007, le ministère de la Culture a créé ce qu'on appelle des pôles d'enseignement supérieur qui délivrent au niveau de la licence, donc Bac plus 3, dans une dizaine de lieux en France, un enseignement supérieur. Donc cette pétition qui revendique le fait de faire reconnaître au niveau licence des diplômes de conservatoire aussi bien de Toulouse que de Limoges que de Marseille, peut-être ne connaît pas vraiment le réseau qui déjà existe actuellement de l'enseignement supérieur en France. Donc il y a là peut-être quelque chose qui demande à être mieux connu et mieux perçu par les signataires de cette pétition.
Mais il y a beaucoup d'apprentis musiciens qui pourraient avoir justement ces équivalences dont vous parliez au niveau licence, master, doctorat reconnus dans l'ensemble de l'Europe, passent par des études de musicologie. On est sur de la théorie pure, pas sur de la pratique musicale. On ne reconnaît pas la musique comme une vraie matière intellectuelle en France ?
C'est le choix un peu particulier qui est fait en France. Vous savez, même au niveau du ministère de la Culture, nous avons le ministère de l'Éducation nationale d'un côté, le ministère de l'Enseignement supérieur, et de l'autre côté, le ministère de la Culture. Ils œuvrent ensemble depuis une trentaine d'années pour la formation des musiciens intervenants dans des centres spécifiques où il y a donc là les deux ministères qui travaillent ensemble pour que les musiciens interviennent aussi bien à l'école que dans les écoles de musique et les conservatoires. Mais côté enseignement, on peut dire artistique spécialisé, en France, c'est le ministère de la Culture qui délivre les titres, alors qu'à côté, on a l'université qui, elle, délivre des titres universitaires qui, eux, sont reconnus au niveau européen dans l'enseignement supérieur.
Mais alors pourquoi ailleurs en Europe, justement, la musique, la pratique musicale semble mieux reconnue, mieux accompagnée ? Musicien, c'est toujours pas un métier aujourd'hui en France ?
C'en est un, heureusement, puisque depuis très longtemps, des gens en vivent difficilement, parce qu'il est difficile de trouver des postes, tant dans des orchestres avec la concurrence internationale de haut niveau, que dans l'enseignement des conservatoires. Néanmoins, il est vrai que, par exemple, en Suisse, il y a des universités des métiers, et donc des hautes écoles de musique, très spécialisées dans la musique, qui délivrent des diplômes de niveau licence, puis master, puis doctorat. C'est le cas aussi en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre. En France, récemment, depuis une dizaine d'années seulement, l'université et le ministère de la Culture se sont mis ensemble pour reconnaître cette formation supérieure. Donc c'est un vrai métier. Ensuite, quand les gens veulent enseigner, ils doivent passer par d'autres concours très complexes, très lourds, qui sont organisés très rarement, pour entrer dans la fonction publique territoriale. Donc c'est un vrai parcours du combattant pour un jeune musicien.
La question des débouchés, du coup, quels sont les débouchés pour ces musiciens ?
Il y a l'enseignement, et là nous avons un réseau en France exceptionnel qui a été vraiment mis en place depuis Marcel Landowski dans les années 70, avec André Malraux, puis avec Maurice Fleuret et Jack Lang, qui ont vraiment fait en sorte que la France soit dotée d'un réseau très important d'enseignement. Donc il y a beaucoup d'écoles de musique de qualité, de proximité et parfois de très gros conservatoires qui sont vraiment de très bons conservatoires. Donc il y a de vrais débouchés dans l'enseignement, dans la pratique, dans la création. La difficulté, c'est que, comme pour le reste, les collectivités territoriales sont souvent en charge du développement de la culture, et quand elles ont des difficultés financières, comme c'est actuellement le cas, eh bien, il est assez difficile de maintenir un réseau d'enseignement, des conservatoires, et ces temps-ci, on voit que des classes ferment, des postes ne sont pas transformés. Donc, ces temps-ci, on peut dire qu'après une vingtaine d'années de progression, les débouchés professionnels sont difficiles. Donc je comprends que des jeunes et leurs enseignants souhaitent déjà que leur formation de qualité et longue soit reconnue au niveau universitaire. Ceci dit, ce n'est pas ça qui assurera des débouchés, puisque si même nous faisions monter le niveau de reconnaissance au niveau de la licence et du master, il faudrait que les salaires suivent derrière. Et les salaires, ce sont les collectivités qui payent. Et dans l'état actuel des choses, il serait extrêmement difficile de revaloriser les carrières, même si les musiciens le mériteraient.
Jean-Marie Siesca, merci et bonsoir. La météo et du grand soleil demain pour le début de l'été. Parfois quelques nuages, mais sinon c'est le grand bleu. Les minimales 14 degrés au nord, 21 dans le sud, de 26 jusqu'à 33 pour les maximales. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé en collaboration avec Caroline Beneteau.